Bien, donc, ça y est, nous allons enfin parler d'accompagnement et de soutien par les pères, pour de vrai. Et maintenant, c'est jusqu'à demain, 16h, jusqu'à la fin. On ne parle plus que de ça. Mais on avait souhaité cette introduction de manière à bien contextualiser et à ce qu'on puisse avoir des débats très phosphorants. Bien. Donc, peut-être d'abord revenir sur le fait que depuis les années 2010 en France, le développement des pratiques d'accompagnement et de soutien par les pères connaissent un regain de vitalité, majeur même. Nous avons découvert les patients experts, les médiateurs santé-pères, dans le secteur sanitaire plutôt, et c'est en train de changer. On a connu aussi les pères aidants, les pères émulateurs, les travailleurs pères, dans le secteur social et médico-social. Et donc autant de catégories qui ont émergé dans des différents contextes, mais qui désignent toutes, malgré le fait que les étiquettes soient différentes. Elles désignent toutes l'action de soutenir ceux qui ont vécu une expérience similaire à la sienne, autrement dit des pères. Donc soutenir ses pères. L'accompagnement, le soutien par les pères, ce n'est pas exactement une innovation au sens où ça serait complètement nouveau. En réalité, de façon informelle et spontanée, l'entraide entre pairs a probablement toujours existé. Ce qui est très nouveau, par contre, deux choses. Un premier tournant, c'est Kropotkin qui nous explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une période de structuration des pratiques de soutien par les pairs, et que cette structuration a eu lieu autour des nouveaux mouvements sociaux, que ces nouveaux mouvements sociaux ont largement développé les espaces sociaux entre pairs et aussi les objets d'échange, notamment autour de la condition noire, autour de la condition féminine, autour de la condition ouvrière, etc. Et Joël Zask en a déjà parlé ce matin. Le deuxième tournant, ça a été les années 2010, où là, effectivement, les politiques publiques en France s'emparent de la question de l'accompagnement et du soutien par les pairs. Ces relations interpersonnelles et collectives, qui sont fondées sur la philosophie self-help, s'ancrent dans la volonté des personnes de se prendre en main par elles-mêmes et de s'en sortir, et pour se prendre en main, de solliciter leur père. Ces relations, elles supposent une identification subjective et réciproque, de l'autre comme père. Elles supposent également une définition des problèmes et de l'objet de changement par la personne directement concernée. Et enfin, toutes ces relations self-help sont aussi des organisations et un contrôle des actions par les pairs. Donc ces relations self-help ont ouvert un espace d'échange très spécifique et sensible, au sens où il y a énormément d'échanges, d'expériences et de subjectivité. Elles produisent régulièrement des savoirs expérientiels co-construits et souvent essentiellement entre pairs. Il y a un idéal de cette pratique qui existe et qui repose sur les principes d'empowerment et d'autodétermination. Et on peut dire aujourd'hui, puisque dans le champ anglo-saxon, les scientifiques s'en sont saisis, on a idée que ces modalités d'action ont fait leurs preuves. Et très récemment, j'ai lu une recension de la littérature scientifique faite aux USA par Shirelle Bellamy, qui sera parmi nous demain, et qui parlera en plénière, et qui expliquait que donc dans le champ de la santé mentale, il a été montré que les interventions par les pairs aux USA obtiennent des résultats équivalents à ceux des professionnels ou encore aux résultats des équipes mixtes, c'est-à-dire professionnels et pairs, et que ces résultats équivalents portent sur la baisse du nombre d'hospitalisations ou la baisse du nombre de jours d'hospitalisation. Ça porte également sur l'engagement dans les soins ou dans l'amélioration de la qualité de vie. Ça porte également sur la baisse de la consommation d'alcool et de drogue, etc. Cette recension de la littérature met en avant un point particulier qui concerne spécifiquement les pères accompagnants. Ils apportent une plus-value spécifique en termes d'espoir, de qualité de vie ressentie et d'empowerment. Voilà donc pour faire un petit bilan de l'état des connaissances en 3 minutes sur le soutien par les pairs. Et donc l'introduction de ces accompagnements et soutiens par les pairs au cœur des politiques publiques et leur inscription dans les pratiques au sein des établissements et services des secteurs sanitaires, social et médico-social, cette introduction a transformé les pratiques spontanées mais aussi structurée, du fait des contraintes, des objectifs, des budgets, des valeurs inhérentes à ces nouveaux contextes. Les matériaux collectés et la connaissance issue de nos terrains d'enquête ethnographique, engagés pour certains depuis 2011, ont permis de réfléchir à ces inflexions en cours. Et donc, nous vous proposons de situer tout d'abord l'accompagnement et le soutien par les pairs dans la dynamique de participation des usagers, des personnes accompagnées et de tous les autres, vous le savez, donc en France. Dans un deuxième temps, nous allons essayer d'expliquer quelles sont ces transformations. En tout cas, on n'a que 30 minutes, hein, donc celles qui nous paraissent les plus importantes. Donc qu'est-ce qui change dans ce type-là de relations et d'accompagnement? Et enfin, nous reviendrons sur les apports de ces changements pour les établissements et services et au sein des équipes professionnelles, avant que de conclure. Donc, première question, à quoi participe aujourd'hui l'accompagnement et le soutien par les pairs depuis qu'ils sont rentrés dans les contextes politiques publics et dans les établissements et services des différents secteurs mentionnés précédemment? La participation est un terme d'usage polysémique, et Marcel en a déjà longuement parlé, et il y a des tas de différences, de différentes définitions, et parfois elles sont même contradictoires. Aujourd'hui, ce terme est couramment utilisé par les professionnels, bien sûr, les personnes directement concernées, les politiques publiques contemporaines, et que ce soit au niveau national, européen et international, mais également par les modèles scientifiques, comme la classification internationale du fonctionnement de l'OMS, ou encore le processus de production du handicap de nos collègues québécois. Concernant les secteurs d'activité sanitaire, social, médico-social, on peut dire qu'à grosso modo, on pourrait faire une typologie de quatre grands types d'acceptions. Et le premier type de participation, ce serait la participation au projet thérapeutique, au projet individuel, au plan global d'accompagnement. Et donc là, il s'agit d'une participation de la personne directement concernée autour d'un outil qu'elle partage avec les professionnels. Et dans ce cadre-là, quand tout se déroule normalement, elle prend part aux décisions qui la concernent. La deuxième définition de la participation, c'est une participation qui renvoie davantage au fait de contribuer aux instances de consultation ou de décision dans les établissements et services des 10 secteurs. Et là, l'objectif est plutôt d'influencer l'offre de services, d'améliorer les pratiques et de réguler le fonctionnement des établissements et services en tant que représentants d'usagers. Donc ces deux premiers types de participation concernent avant tout la personne en tant qu'usager des services et d'établissements. Et donc on va se pencher maintenant sur deux autres types de définitions qui nous concernent plus pour ce qui est de l'accompagnement et du soutien par les pairs. Troisième définition, la participation sociale. Et là on arrive sur le concept de participation sociale, qui signifie la participation bien sûr à des échanges interpersonnels, mais aussi à la société civile, aux ONG, aux associations, etc., et aussi aux grands domaines de la vie, tels que l'éducation, le travail, les loisirs. Cette participation suppose une vie hors les institutions, elle suppose une vie en milieu ordinaire, et elle suppose également que ce choix soit possible avec les soutiens et les ressources effectifs, et avec des accompagnements si besoin. Dans cette perspective, il y a des grands textes internationaux qui promeuvent l'égalité des droits et des chances au regard des autres concitoyens, et notamment les textes de l'ONU et de la Déclaration de Madrid. La quatrième définition est une définition qui est strictement issue du champ de l'action publique, et plutôt au niveau européen, de même de l'Union européenne à partir des années 2000. Et là, elle vise le traitement de l'exclusion par le soutien à l'accès à l'emploi et plus largement à l'inscription dans la société. Ces programmes et actions s'appuient sur un idéal de société alliant performance économique, démocratie et cohésion sociale. En France, ces orientations voient leur application à travers des plans nationaux de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Où se trouve l'accompagnement et le soutien par les pairs dans tout ça? L'accompagnement et le soutien par les pairs correspondent aux formes de participation sociale qui sont inscrites donc dans cette perspective, mais qui se caractérise par le fait de soutenir des objectifs très micro. Les objectifs sont avant tout de permettre à des personnes, en tant que personnes, en tant qu'individus, de faire face à certaines épreuves ou situations, ou bien de faciliter la résolution de problèmes ou le dépassement d'obstacles de la vie quotidienne. Le focus est donc fait sur la personne et sa vie quotidienne. Aussi, on peut se demander finalement quels sont les effets produits par la mise en œuvre d'accompagnement et de soutien par les pairs dans le cadre d'objectifs et de moyens de politique publique ou d'établissements et de services. En effet, la relation interpersonnelle s'inscrit alors non plus seulement, elle s'inscrit d'abord dans une offre, et cette offre porte non pas tant sur les individus et les personnes que sur des populations auxquelles il faut répondre en termes de besoins ou de services, et qui ne vise pas tant les aspirations des personnes, mais la réponse à des besoins évalués, ou encore à l'adéquation de l'action à des objectifs et des missions qui ont des sources extérieures à la relation avec le père accompagné, ou encore des réponses qui répondent à un diagnostic et l'évaluation d'un état de santé. Donc, quel effet produisent les politiques publiques et ces nouveaux contextes donc de développement de l'accompagnement et du soutien par les pairs sur ces pratiques? Notre enquête et la diversité des terrains investigués, des contextes de déploiement que nous avons eu l'occasion d'observer, ont alimenté donc notre réflexion au cours de ces derniers mois. Nous souhaitons repartir des piliers de l'accompagnement et du soutien par les pairs, et donc, tout particulièrement, de la qualité particulière de la relation de pair à pair, avec cette identification subjective et réciproque. Deuxième pilier, une posture relationnelle qui favorise l'empowerment et l'autodétermination. Et troisième pilier, les savoirs expérientiels qui y sont souvent co-construits. Et donc nous avons essayé de discerner les facteurs sociaux, saillants, influençants, ces trois fondamentaux. Premier élément de réflexion, qui s'appuie sur la distinction opérée par Joël Zask entre prendre part et faire partie d'eux. Prendre part relève de la libre association entre les personnes et faire partie d'eux désigne plutôt la participation à une dynamique qui est définie de l'extérieur, par exemple par une politique publique ou par l'émission et l'agrément d'un établissement. Autrement dit, dans une première situation, les objectifs et les moyens sont inventés chemin faisant par la personne soutenue par ses pairs. Dans la seconde situation, il y a des objectifs, des budgets, des moyens qui sont préalablement votés ou accordés et qui définissent a priori les cadres de l'action. Et en outre, les procédures d'évaluation contrôlent a posteriori l'action une fois déroulée. Donc, dans cette seconde situation, la possibilité d'adaptation au plus proche de la personne est moindre. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible. Et les GEM en sont un bon exemple. Mais le risque que les objectifs poursuivis... Mais les risques que les objectifs poursuivis soient davantage définis d'un point de vue extérieur à la personne sont importants, évidemment. L'évaluation des besoins ou le bilan de santé en sont aussi de bons exemples. Dans ce cadre, dans cette seconde situation, la posture d'empowerment et de facilitation de l'autodétermination de la personne est plus ou moins envisageable. Il s'agit d'un continuum, d'autant que le cadre imposé des responsabilités professionnelles et institutionnelles n'est pas oublié et il limite le champ des possibles. Deuxième point de réflexion, l'identification subjective et réciproque de l'autre en tant que pair, ayant vécu des expériences similaires, et cette expérience donc de reconnaissance de l'autre qui permet donc de générer cette relation qui a des effets bien spécifiques et intéressants. Cette identification réciproque ne peut pas être imposée de l'extérieur. Il s'agit d'un effet de résonance avec l'expérience propre. Aussi, la relation entre pairs repose sur la liberté réciproque des pairs d'entrer en relation et d'entretenir cette relation. Cette relation se développe et se poursuit tout d'abord car les personnes se reconnaissent comme pairs et, deuxièmement, car chacun trouve important à ses yeux et trouve des choses importantes à ses yeux dans le partage d'expériences effectuées. Chacun est donc libre d'y mettre fin à n'importe quel moment et sans avoir l'obligation de se justifier. Aussi, instituer un pair accompagnant dans l'organigramme d'un établissement ou d'un service implique de renoncer souvent, mais pas systématiquement, aux effets produits par l'identification réciproque. Certains pères accompagnants sont en effet habiles à suggérer à autrui leur parité. Cependant, en l'absence de cette identification réciproque, l'intervention se rapproche nettement d'une relation d'aide avec ses effets usuels, même si, d'un point de vue extérieur, l'aidant est considéré comme un père, par l'établissement et par les professionnels. Deuxième effet, le père accompagnant, lui, se retrouve avec l'obligation formelle ou implicite d'entretenir des relations avec ceux qui sont donc des usagers de l'établissement, qu'ils les reconnaissent ou pas, et seulement souvent certains comme ses pairs. Il ne se reconnaît pas dans l'expérience de toutes ces personnes. Et de l'autre côté, pour le père accompagné, lui, il a plus ou moins de facilité à ne pas être en relation avec ce père accompagnant s'il ne le souhaite pas. Troisième élément de réflexion, le ressenti d'égalité et la réciprocité possible dans les échanges sont au fondement de la relation de père. Et donc, la désignation d'un individu de l'extérieur de la relation de père, parce qu'il est désigné par l'organigramme comme père, et extérieur à l'organisation, a priori, de sa fonction, parce qu'il a un lien de travail avec de nombreux professionnels et partenaires, tout ceci, donc, vient modifier la possibilité d'une relation horizontale et réciproque. Le père accompagnant doit prendre en compte de nombreuses attentes et contraintes et qui ne sont pas toujours convergentes avec celles du père accompagné. Alors, le père accompagnant peut endosser son rôle de façon à minimiser l'impact de ces facteurs d'écart. Mais il reste cependant contraint par d'autres engagements. Par exemple, s'il doit restituer le contenu de ses échanges avec ses pairs pour contribuer au travail de l'équipe pluriprofessionnelle, là on voit bien que l'égalité et la réciprocité avec son père sont de fait rompues. Donc maintenir une relation de père demande beaucoup d'éthique, de subtilité au père accompagnant, et implique également que l'équipe professionnelle lui laisse une grande marge de liberté dans ses retours, comme cela est possible pour un psychologue par exemple. La question du statut, des libertés et des contraintes qu'il ouvre est sur ce point souvent un enjeu essentiel, comme nous l'avons vu dans la journée d'études experts 2018. Quatrième élément de réflexion, co-construire des savoirs expérientiels sur mesure, correspondant au cheminement de la personne, à son rythme, à ses aspirations et au problème tel qu'il est défini, suppose un espace social d'échange spécifique fondé sur la relation de pair à pair. En effet, cette co-construction est, entre autres, rendue possible par des échanges réflexifs engageant l'expérience vécue de chacun. Et donc la vie privée est souvent l'intimité de chacun. Les savoirs spécifiques seront construits dans le cadre de l'expérience de la personne et par la personne, grâce aux questions, au partage d'expériences, aux idées, aux ressources, mais aussi au soutien moral de ses pairs. Ce degré d'intimité dans les échanges est très en écart avec la conception de la bonne distance entre un professionnel et un usager. Là encore, pour que ce process de co-construction puisse se dérouler, faut-il que la posture du père accompagnant soit comprise et acceptée par l'équipe et les partenaires. Cinquième élément de réflexion, nos observations de terrain nous amènent à constater que le déploiement de l'accompagnement et du soutien par les pairs, dans les contextes de politique publique, d'établissement de services ou encore partenariat avec des professionnels, que ce déploiement est très souvent confronté à la question de la légitimité. Les effets des pairs accompagnants, des pairs accompagnement ne sont pas encore suffisamment reconnus et diffusés en France, et donc de nombreux pairs, devant ce manque de légitimité, choisissent de privilégier ou ont même pour mission un travail de promotion, de sensibilisation et de légitimation de leurs pratiques auprès des professionnels et des partenaires. Aussi, la rencontre entre pairs se retrouve-t-elle parfois réduite aux interstices entre une profusion d'activités légitimantes.
Bien, je vais continuer. En fait, Ève vous a rendu compte de la manière dont la relation de pair à pair se met en place dans le cadre de la mise en place de politiques publiques. La contribution que je vais prolonger, c'est qu'apporte l'introduction des pairs, non seulement, je dirais, à la relation de pair à pair, mais aussi aux équipes, aux institutions, aux établissements et aux services. Donc là, on a vu jusqu'à maintenant que l'accompagnement et le soutien par les pairs étaient modifiés par l'introduction de pairs et de leurs pratiques dans les équipes. Pas toujours positivement, pas toujours négativement, mais il y a une modification. Et si elle modifie la qualité, parfois même la nature des accompagnements, sur par exemple l'identification réciproque, perdent-ils pour autant tout intérêt et toute valeur? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut balancer le bébé avec l'eau du bain? Notre enquête de terrain et nos recherches précédentes nous amènent à prendre acte de divers effets constatables de façon récurrente. Alors, il y en a trois, je vais vous les citer. Du point de vue des équipes, qui travaillent avec des pairs depuis un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qu'on constate, en premier lieu, c'est une relative diminution de la stigmatisation des personnes en termes de représentation directement concernées par les professionnels. Que ces personnes, d'ailleurs, soient pères accompagnants. Nous, on dit pères accompagnants, ce qui veut dire, ça a été dit tout à l'heure, pères aidants, pères émulateurs, etc. Ou pères accompagnés, sur les deux volets de la relation. En effet, il y a une forme d'ajustement, de coudoiement quotidien qui amène une part des professionnels à revisiter leurs habitudes, leurs routines de pensée à l'aune d'une expérience concrète de travail avec un collègue, qui est le père, donc devient un collègue ou un partenaire dans le travail. Ces professionnels sont alors plus vigilants, attentifs à la portée des mots qu'ils emploient, aux interprétations qu'ils peuvent faire sur tel ou tel type de situation, à la manière de désigner. Bref, à ne pas identifier la personne simplement à un déficit, à une pathologie, à une chute, à une désaffiliation, on pourrait démultiplier les termes, ou à une pathologie. Toutefois, de façon non exceptionnelle, ce n'est pas idéal, il y a effectivement des pairs accompagnants sur nos terrains qui ont été marginalisés par l'équipe ou qui se sont auto-marginalisés. C'est très difficile d'ailleurs de faire la différence parfois entre les deux processus. Et dans cette situation, les parties ne reconnaissent souvent aucun avantage à leur fréquentation réciproque. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. C'est pour le dire. Ouais, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors les postures stigmatisantes persistent à ces moments-là. C'est-à-dire il y a une acmé de stigmatisation qui remonte. Premier point. Deuxième point, la présence proximale des pères accompagnants sur les lieux historiquement réservés, entre guillemets, aux professionnels, incarne en fait, je dirais, de façon très in situ, très, très pratique, très prosaïque, cet idéal de participation dont on parle depuis ce matin, déjà acté donc depuis plusieurs années, comme ça nous a été redit par Marcel et d'autres, au niveau des instances de représentation. En fait, sur le terrain, dans les associations, dans les services sociaux de soins, dans les réunions, mais aussi dans les couloirs des unités de soins, il y a une présence des pairs qui permet régulièrement des relations d'accompagnement et de soins qui sont davantage horizontalisées. En fait, la présence des pairs semble, à un moment donné, horizontaliser les relations qu'il peut y avoir, je dirais, dans les services. Et ça, c'est effectivement un effet qui est tout à fait remarquable. Et particulièrement, si vous voulez, dans les contextes où les professionnels sont ouverts et préparés, donc formés, encore faudra-t-il discuter sur quelles sont les formations dont ils pourraient bénéficier, à un bouleversement des hiérarchies instituées, sur la question des savoirs, la question de la hiérarchie, la manière dont on relaie, si vous voulez, la hiérarchie institutionnelle ou non, etc. Malgré les différences de statut et de place demeurant statutairement asymétriques, ne soyons pas non plus là trop naïfs, entre père accompagnant et père accompagné, une certaine autonomie et une prise de responsabilité est alors possible pour les publics et les pères accompagnants. C'est le deuxième effet qu'on a pu voir sur nos terrains. Troisième effet, si vous voulez, c'est à partir du moment où il y a un fonctionnement, je dirais, plus habituel, en routine, d'une équipe où il y a un père accompagnant, je ne sais pas si je vais arriver, avec l'éthique relationnelle et les savoirs expérientiels des pères accompagnants, cela amène certains professionnels à progressivement faire deux choses. D'une part, on l'a dit comme ça, je ne sais pas s'il faudrait le dire autrement, à détechniciser leur posture, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de qualification. Ils détechnisent la posture, pas la compétence ni la qualification, dans la relation aux patients ou aux accompagnés. C'est ce que Lise de Mailly appelle dans un de ses articles « ce savoir jouer la proximité ». Et il ouvre, ce savoir jouer la proximité ouvre alors les professionnels sur une palette de jeux rationnels plus sensible, plus émotionnel, plus subtil. Là aussi où il réaménage la question de la bonne distance, mais de la bonne distance où il se donne l'autorisation, parfois effectivement, de parler de leurs émotions, de leurs affects, exprimer davantage, si vous voulez, leur vie privée, entre guillemets, mais jusqu'à un certain point, c'est ça la question, dans la relation d'accompagnement et de soins. Alors l'addition de ces deux divers éléments, relatifs des stigmatisations, nouvelle proximité grâce au père, relative des technicisations de la relation pour certains professionnels, peut tendanciellement converger vers une forme d'intervention moins normative, moins normalisatrice. Et donc se dessine alors en creux une aspiration à une position plus attentive à considérer les personnes comme les premiers experts de leur expérience et les plus à même de définir leurs aspirations. Alors il y a eu des tentatives, il y en a encore, on a dit que ça se multipliait sur le territoire, donc pour construire ces nouvelles postures, il y a quelque chose de l'ordre de la contamination, on a l'impression, et donc qui se donne à voir sur des nouvelles façons de nommer ce travail social que certains ne veulent pas d'ailleurs s'appeler. Donc on voit arriver du côté des professionnels la figure du facilitateur, du médiateur de projet, du gestionnaire de cas, des personnes ressources, du coaching. Et en fait, on a l'impression, on peut avoir en tout cas cette hypothèse, que cette nouvelle façon de nommer qui n'est pas statutaire est liée aussi à l'introduction des pairs. Alors, c'est ça qu'on essaye de dire. Et puis, j'en étais où ? Donc, facilitateur. Et puis, oui, dernière chose, ce qu'il y a aussi sur ces nouvelles figures professionnelles, c'est des figures qui ne sont pas pour l'instant apparemment légitimées, si vous voulez, par l'État central, mais qui sont amenées dans des référentiels de métier. De façon périphérique, dans des relations qui sont davantage liées à des projets de développement et qui sont très situés, on pourrait dire. Donc les professionnels apprennent alors, chemin faisant, à faire avec, à accompagner une pluralité de formes de vie. Ça, c'est un des derniers éléments. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si j'ai le temps de développer ça, mais on pourra peut-être le faire dans les questionnements. J'ai 2 minutes, mais après, j'ai plus que la conclusion. C'est l'idée que les pairs amènent aussi par rapport à cette espèce de bulldozer de standardisation qui consiste à dire habitat, famille, je caricature un peu, mais travail, amène aussi un imaginaire de vie un peu différent, hein, ce qu'on pourrait appeler des formes de vie différentes, qui à un moment donné sont discutées, font écho à l'imaginaire des professionnels qui ne l'avaient pas systématiquement. En conclusion, donc, introduire les accompagnements et les soutiens par les pairs dans le cadre des politiques publiques rendent aléatoires et moins aisées plusieurs choses. Donc, je reprends ce qui a été dit, les identifications réciproques entre pairs, la définition des objectifs par les personnes et la possibilité de co-construire des savoirs expérientiels supposant le partage entre pairs et la protection de l'intimité et de la vie privée vis-à-vis du restant de l'équipe. D'accord. Mais il y a, de fait, si vous voulez, un certain nombre de questions qui se posent, qui nécessiteraient une continuité dans l'enquête, au niveau, je dirais, des contextes. Il me reste 1 minute, je vais y arriver en 2 minutes.
1 minute.
Ouais, 1 minute à l'anglaise. Mais là, vous me faites perdre du temps, là. Des épreuves de contexte. Non, je veux dire les choses très tranquillement, en fait. Il y a, dans le développement de l'accompagnement et du soutien par les pairs, des enjeux sous-jacents qu'on a mis dans l'argumentaire. S'agit-il d'une volonté de démocratiser le secteur d'activité, d'une caution participative, de nouvelles collaborations ou une normalisation des pratiques ? Vous voyez, on revient sur l'argumentaire et sur, le background politique, sur la vision politique qu'on peut avoir de la société. On n'a pas répondu à ces questions parce qu'on pense qu'il y a un risque... toujours là, présent, qui est de monter trop vite en généralité, qui sont souvent hâtives et non argumentées sur le terrain. Par contre, si vous voulez, ce qu'on voit sur la manière dont se construisent les politiques publiques, sans répondre à ces questions, c'est qu'il y a finalement 2 niveaux où il se passe quelque chose d'intéressant. Le premier niveau, c'est ce qu'on a appelé les arènes nationales. Donc c'est dans les arènes nationales, il y a une initiative aujourd'hui qui est prise sur notamment la professionnalisation du père accompagnement. Mais ce que l'on voit à ce niveau-là, c'est qu'à l'opposé des États-Unis, puisque le self-help vient des États-Unis, nous avons vu qu'en France, l'implémentation des pairs accompagnants commence à être cadrée par l'État suite à une traduction interventionniste de celui-ci. Donc l'action publique qui en découle se fonde sur une dynamique de transfert de modèles d'actions préexistants. Tout se passe dans les arènes nationales comme s'il y avait une efficacité intrinsèque de l'introduction des pairs accompagnements, où la preuve ne serait plus à faire, car elle serait déjà prouvée dans un contexte initial de mise en œuvre, en Amérique du Nord par exemple. Donc ça pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire ça pose la question de comment, dans un transfert, si vous voulez, de figure qui est celle de pair accompagnement dans un pays francophone, latin, etc., il faut aussi avoir, si vous voulez, la conscience qu'il n'y a pas qu'une arène nationale qui va aller chercher, si vous voulez, ses preuves et ses fidélités au modèle à l'étranger, mais il y a aussi des arènes locales. Et donc les arènes locales nous ont paru très très importantes. Il y a des épreuves de contexte des arènes locales. Alors qu'est-ce qu'on appelle les arènes locales ? C'est le jeu des acteurs locaux, que ce soit les agences régionales de santé, les directeurs d'hôpitaux, les conseillers, les CME, les conseils médicaux d'établissement, les syndicats. Les syndicats sont montés au créneau contre les pères aidants il y a quelques années, les conseils d'administration d'associations, les professionnels et bien sûr les personnes directement concernées. Et sur nos terrains, en fait, le pair accompagnement en pratique est souvent différent du modèle prévu au sein des arènes nationales et tel qu'il est relayé au sein des cahiers des charges. Donc il y a, si vous voulez, ce que les politiques publiques connaissent très bien, qu'on appelle implementation gap. C'est-à-dire il y a des écarts d'implémentation, mais la question qui pourrait se poser, si vous voulez, en conclusion, c'est est-ce qu'il faut rectifier ces écarts, ou est-ce qu'il faut considérer ces écarts d'implémentation finalement comme des marges de manœuvre où il peut y avoir de la créativité pour mettre en place une figure du pair accompagnant à la française. Je vous remercie.